Radio Okapi.
Le journal grâce à Mzaxi Massandi à la présentation.
À la une de l'actualité ce soir sur Radio Okapi, la situation économique difficile dans la ville de Goma ne permet pas aux parents de préparer la rentrée scolaire pour leurs enfants. Pourtant, c'est déjà pour ce lundi 1er septembre. C'est la conséquence notamment de la fermeture des banques depuis l'occupation de la ville par la rébellion du M23. Des échauffourées ce jeudi matin entre la police et la population du quartier kilomètre 8 dans la ville de Boma, au Congo central, font 2 morts et 2 blessés. À la base, les habitants soupçonnent certains éléments de la police de complicité avec les criminels qui ont fait incursion dans quelques maisons de la place, affirme une ONG locale des droits de l'homme. Hubert Kimboza, inspecteur général à l'éducation nationale, est notre invité. Il s'exprime sur les efforts à entreprendre pour améliorer la qualité de l'éducation en RDC durant la nouvelle année scolaire. Bonsoir à tous. Éducation pour commencer. À quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre, les parents et les commerçants de Goma disent rencontrer d'énormes difficultés pour subvenir aux besoins de leurs enfants. La cause, depuis fin janvier, les banques de la ville sont fermées. De ces faits, le tissu économique se trouve paralysé à la suite de l'occupation de la ville par l'AFC M23. Quelques témoignages dans ce reportage signé Alain Irong Mouchinj.
Nous sommes au centre commercial de Biréré où sont situées plusieurs papeteries mais aussi la vente des fournitures scolaires par des tierces personnes. Comme le dit cette femme, il n'y a pas d'engouement de la part des clients. Écoutons ici le témoignage de ce commerçant.
Il y a peu de parents par rapport à l'année passée. On a même diminué les prix de certains articles. Le cartable l'année passée, on était à $25. Vu la situation d'aujourd'hui, on a été obligé de diminuer. On met ça à $10.
Toutefois, certains parents se battent pour acheter quelques objets nécessaires à leurs enfants.
Les revenus sont modiques dans cette période ici. Mais comme ce sont nos enfants, nous faisons tout pour qu'ils puissent quand même, ne serait-ce qu'avec la moitié des fournitures scolaires, ils seront à l'école.
D'autres parents, en revanche, n'ont pas encore pu inscrire leurs enfants à l'école faute des moyens.
Jusqu'à maintenant, je ne sais pas là où je vais faire inscrire mes enfants parce que là où ils étudiaient, c'était dans des écoles privées. Là, ça m'a compliqué à terminer l'année compte tenu de la situation que nous avons traversée avec la guerre.
Au marché de Goma, on observe un rabais du prix des outils d'éducation pour cette année. Cependant, le panier de la ménagère reste menacé suite à une situation économique en berne.
Merci à vous, Alain Irung Mouchinj. Entre-temps, des mouvements de grève des enseignants s'annoncent dans plusieurs régions du pays après le Nord Kivu et l'ex-province de l'Équateur. C'est au tour de l'intersyndicale Kwilu 3 de hausser le ton. Les enseignants de cette province éducationnelle conditionnent la reprise des cours au paiement de leurs 3 mois d'arriéré des salaires par la banque Afriland. Cette décision a été prise lors de l'Assemblée générale tenue hier à Idiofa. Dans un mémorandum adressé à l'administrateur du territoire, ces enseignants dénoncent des pratiques qu'ils jugent abusives, notamment le paiement par chèque lors des opérations de paie et les refus de la banque d'échanger les billets déchirés rejetés sur le marché. Écoutons Alphonse Bambata, rapporteur de l'intersyndicale Kwilu 3, Kwilu 3 au micro de Plotin Yambenga.
Jusqu'à ce jour et à cette date, notre réclamation est restée une lettre morte ou un coup de paie dans l'eau. Au regard de tout ce qui précède, nous avons été de nouveau réunis en Assemblée générale extraordinaire de tous les enseignants de l'EDUNC, puis le 3 pour examiner la situation demeurant sans une seule avancée, soit un sabotage. À l'issue de cet examen, nous nous sommes résolus comme si exigeons sans condition. 1. Le paiement de nos 3 mois de salaire en litige. Si la banque s'entête de libérer ses salaires et que les enseignants n'arrivent pas à préparer la rentrée scolaire 2025-2026, c'est-à-dire 0 enseignant à l'école. Pour sauver cette rentrée scolaire, nous vous prévenons, monsieur l'administrateur du territoire, de peser de tout votre poids politique pour trouver solution à notre problème avant qu'il ne soit tard.
Nos efforts pour avoir la réaction de la banque Afriland, mise en cause par l'intersyndicale des enseignants du Kwilu 3, n'ont pas abouti. Et dans la province du Tanganyika, des inspecteurs de l'enseignement de la sous-division Moba 1 et 2 sont déployés sur le terrain pour vérifier la mise en application des instructions sur la rentrée scolaire. Cette action intervient après le cri d'alarme lancé par l'ONG Young Man Exchange for Education qui a dénoncé certaines pratiques dans des écoles. C'est notamment la vente des fournitures scolaires ou le paiement des frais d'inscription, des pratiques interdites par le ministère de l'Éducation nationale. Paul Emunanga.
L'ONG Young Men Action for Education rappelle les directives portant fixation des frais de scolarité, mais également la note circulaire portant disposition à prendre pour la rentrée scolaire de cette année. Elle souligne que les inscriptions et réinscriptions sont gratuites. Il y a aussi la vente des fournitures scolaires à l'école qui n'est pas contraignante. Mais cette ONG a fait le constat selon lequel certaines écoles ne respectent pas ces instructions. Cette situation a poussé les sous-prévôts des Moba 1 et 2 de dépêcher des inscriptions dans des écoles pour se rendre compte du respect de ces directives. Placide Muyumba, point focal de l'ONG Young Men Action for Education.
Nous venons de constater que les chefs de sous-division de l'UNC Moba 1 et 2 viennent de s'impliquer valablement afin de sanctionner tout récalcitrant qui est allé à l'encontre des instructions officielles. Nous exprimons notre gratitude à l'égard des inspecteurs. Aujourd'hui, ils sont déployés tous dans les terrains afin de sanctionner tout chef d'établissement qui viole les instructions en vigueur.
Les sous-prévôts de l'enseignement Moba 2 confirment l'information sur le déploiement des inspecteurs. Abraham Gongo souligne cependant que les inspecteurs dépêchés sur le terrain n'ont pas encore détecté des irrégularités. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
À Bunyanituri, les vacances ne riment pas seulement avec repos. Elles sont aussi l'occasion d'apprendre par exemple des langues étrangères, notamment l'anglais. Focus sur le centre Supremax Institute où des enfants de 5 à 17 ans apprennent l'anglais, une langue qu'ils espèrent porteuse d'avenir. Un reportage signé Jean-Claude Loki d'Ile.
Good afternoon everyone.
Dans les mondes courants, l'anglais est plus parlé.
Mélanie, 15 ans, rêve de devenir pilote. Pour elle, l'anglais est une des clés.
Beaucoup de pays dans les systèmes éducatifs font la formation en anglais.
D'autres, comme Crispin, se projettent déjà dans la médecine. Ses parents l'encouragent et ils se sont bien armés avec les bases de la langue de Shakespeare.
À médecine, il y aura beaucoup de choses en anglais.
Qu'est-ce que tu as appris par exemple?
Comment m'exprimer en anglais, réciter, parler.
Dans la petite classe aussi, la motivation est palpable. Ruth Ruigua enseigne aux plus jeunes. Surprise de voir une fillette de 5 ans s'accrocher déjà aux mots anglais.
Je peux chanter en anglais. Il t'a chuté, nisantos, nisantos, nisantos.
Ils évoluent chaque jour.
Pour les responsables du centre, l'anglais n'est pas seulement une langue, c'est un outil pour transformer l'avenir de ses enfants.
Vous devez être en mesure de communiquer avec des gens qui sont en Inde, des gens qui sont au Canada, des gens qui sont en Australie, faire des affaires même avec le monde extérieur.
Ce centre ne fait pas exception. La ville en compte d'autres où enfants, jeunes et adultes peuvent s'initier à cette langue internationale. Bounia, Jean-Claude Leki, Dile, Radio Okapi.
Direction la ville de Bomokongo Central, deux morts, plusieurs autres blessés, une jupe de la police brûlée et son bureau saccagé. C'est le bilan des échauffourées qui ont éclaté depuis 5 heures du matin de ce jeudi entre les éléments de la police nationale congolaise et la population de kilomètre 8, une agglomération en annexe de la ville de Boma. D'après la Fédération congolaise des droits de l'homme et développement, une ONG des droits de l'homme, cette situation est consécutive à l'incursion des criminels dans près de 5 maisons dans ces quartiers où ils ont pillé et tué un paisible citoyen. Dans une déclaration faite aujourd'hui même, Gabriel Makiese, son coordonnateur, appelle la justice militaire à se saisir de cette situation et interpeller les éléments de la police soupçonnés de participer à cette insécurité. Gabriel Makiese explique la situation au téléphone de Nana Purichimambu.
Il ressort que la population a décidé de manifester après avoir démasqué la complicité tant active que passive des éléments de la police dans les différents actes criminels qui prennent de l'ampleur dans cette agglomération ainsi que dans la ville de Boma. Selon les différents témoignages recueillis sur place, un groupe de malfrats a visité près de 5 maisons dans cette même nuit et la population qui s'est mobilisée pour pourchasser les malfrats a aperçu au clair les éléments de la police qui prenaient la la fuite avec leur jeep. En réaction de cette manifestation, la police fait usage de tirs à balles réelles, faisant un bilan provisoire des morts et des blessés. Au moment où nous parlons, la situation vient de s'étendre à travers la ville. Le crépitement des balles se fait entendre ça et là. Cependant, vu l'ampleur de cette situation d'insécurité à travers notre ville, nous fustigeons la passivité et l'inefficacité du gouvernement central en général et en particulier du vice-premier ministre de l'Intérieur quant au rétablissement de la situation sécuritaire.
Le responsable de la police de la ville de Boma, le commissaire principal Tabou Sadiki, a promis de réagir prochainement. En Nord Kivu, la situation reste tendue et volatile. C'est jeudi dans le village Kibanda, secteur Osso, Banyungu. C'est dans le territoire de Masisi. Ceci est consécutif à un conflit armé opposant les rebelles de la FCM-23 à une coalition des groupes Ouazalendo dans la zone. Selon des sources locales, dans la soirée hier, les deux groupes se sont encore affrontés pendant une courte durée. Ces sources précisent qu'une patrouille d'éléments AFCM-23 en provenance visiblement de Kasopo a affronté quelques combattants de cette coalition Ouazalendo dénommée Uhuru Mark venant de Buhimba. Des échanges de tirs ont semé la panique au sein de la population civile de cette zone de Masisi, mais aussi des habitants du groupement voisin de Walowa Yungu. C'était un énième accrochage entre ces deux groupes dans cette zone, déplore nos sources. Nord Kivu encore, le bourgmestre adjoint de la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, situé à 30 km de la ville de Beni, appelle la population et les services de sécurité à une alerte maximale face aux attaques répétées des rebelles des ADF. En l'espace de 10 jours, Oicha a subi 3 assauts qui ont causé au moins 12 morts et l'incendie d'une vingtaine de maisons. Jean de Dieu Kibwana demande aux habitants de rester vigilants et de signaler rapidement tout mouvement suspect afin de permettre aux forces de sécurité de réagir à temps. Il est au micro de Marc Marofimbo.
À l'intervalle d'une semaine et demie, nous venons de subir déjà presque 3 attaques. Ici à Mbimbi, dans la cellule Majengo, ce qui s'est passé aussi à Pointi, et voilà encore nous sommes à Mabasele, dans la cellule Matokeo. Toute l'hiérarchie des services de sécurité est déjà informée de ce fait. Nous allons encore demander à l'armée de revoir les stratégies d'attaque parce que l'ennemi devient un véritable terroriste. Ce n'est pas tel qu'on le voyait avant. Aujourd'hui, il a changé aussi de méthodologie parce qu'il arrive au moment où on ne s'y attend pas. Nous devons être tous aux aguets. L'armée doit être prête à tout moment parce qu'il ne sait pas quand et où l'ennemi va surgir. Et nous, la population aussi, nous ne devons pas nous décourager. Oicha, c'est notre milieu. Oicha, c'est chez nous. Tenons fort. Nous devons nous coaliser avec notre armée, donner les rapports à chaque instant. Dès que nous voyons un mouvement qui n'est pas habituel, alertons, en tout cas le plus tôt possible, et nous savons que l'armée est mobilisée pour directement intervenir.
Santé à présent, lutte contre le choléra dans la province du Maniema. L'opération de chloration d'eau lancée il y a 2 semaines contribue à réduire sensiblement les cas de choléra dans la zone de santé de Kindu. Selon le médecin chef des zones de santé qui a enregistré une 60aine de cas la semaine dernière, aujourd'hui on compte 10aine de cas. Une satisfaction pour la communauté qui confirme cette information de la zone de santé. Malheureusement, cette opération est arrêtée pendant que la maladie sévit encore dans la province. La population demande la reprise de l'opération d'exploration d'eau. Et puis au Kasaï central, le gouverneur des provinces a lancé officiellement l'administration des nouveaux vaccins antipaludiques R21 à destination des enfants âgés de 6 à 11 mois. Joseph Moïse Kamboulou, entouré des autorités sanitaires et locales, salue l'engagement collectif pour protéger les plus vulnérables qui sont les enfants contre la malaria. François Kadima.
Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a donné ce coup d'envoi sur l'esplanade de la maison communale de Ndécha. Selon lui, ce vaccin est une réponse concrète à un fléau qui endeuille les familles. Le paludisme reste l'une des principales causes de mortalité infantile en RDC. En 2022, plus de 27 millions de cas ont été enregistrés, dont près de la moitié chez les enfants de moins de 5 ans. Ce nouveau vaccin, administré en 4 doses, vise à réduire drastiquement ce chiffre alarmant. Du côté du programme élargi de vaccination, Paul, on souligne que la première dose est administrée à 6 mois, suivie de 3 autres jusqu'au 13e mois. C'est une avancée majeure pour la santé publique. Le relais communautaire, les églises et les chefs de quartier ont été mobilisés pour sensibiliser les familles. L'objectif, amener les enfants dans les structures sanitaires le plus proches pour recevoir leur première dose. Le vaccin antipaludique n'est pas qu'une piqûre, c'est une promesse de vie, une victoire sur la maladie et un symbole de solidarité. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, au moins 9 personnes sont décédées dans le nord du pays après les fortes pluies qui ont provoqué des crues et des inondations. La saison des pluies s'étend du mois de juin au mois de septembre et touche généralement le sud et le sud-est du pays. Mais ces dernières années, les régions désertiques du nord ont également été touchées, causant d'importants dégâts.
L'invité.
Vous le savez, la page de l'année scolaire 2024-2025 est définitivement tournée avec la publication des derniers résultats de l'examen d'État. L'inspecteur général à l'éducation nationale, Hubert Kimboza, promet de multiplier des efforts pour améliorer la qualité de l'éducation en renforçant l'inspection à travers les écoles du pays. Il s'engage également à renforcer l'utilisation de la nouvelle technologie de l'information et de la communication au sein de l'inspection générale ainsi que dans ses succursales à travers le pays. Hubert Kimboza s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur l'inspecteur général.
Bonjour monsieur Blaise Ndongala.
Au lendemain de la réunion annuelle de l'inspection scolaire, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette rencontre?
Merci, messieurs les journalistes. C'était pour nous un moment de réflexion. Nous avons pu énumérer les différentes activités réalisées, quels ont été les points forts, les points faibles et des défis qui ont poussé à ce que nous puissions avoir des opportunités.
Quels ont été les points forts et les points faibles de l'année scolaire passée?
Le point fort, c'est l'existence d'abord de cette ordonnance. C'est le personnel inspectoral, les inspecteurs avec les agents d'appoint. Mais les points faibles, c'est le rendement, le pourcentage et les niveaux des apprentissages. Ceci nous a poussé à proposer à son excellence qu'il était temps que chaque école soit contrôlée, accompagnée par les inspecteurs. Raison pour laquelle elle a annoncé officiellement l'organisation du concours spécial pour la 9e fois pour avoir ainsi accès facile dans notre corps.
Parler des faibles pourcentages, ça se situe à combien?
La moyenne a été de 49%.
Alors, quelles sont les raisons ayant causé la chute de ces pourcentages au cours de l'année scolaire 2024-2025 à travers les pays?
La partie est de la République est sous occupation et les inspecteurs ont du mal à réaliser leurs activités. Et donc, de ce côté-là, le rendement a été en deçà même de la médiocrité parce que rien n'a été fait sur terrain, à part quelques collègues dans des centres-villes comme Goma, comme Bukavu, mais ailleurs, avec les déplacements des populations, les inspecteurs étant des humains, ont été aussi contraints à faire ces déplacements. Mais c'est aussi le manque d'inspecteurs dans plusieurs filières. Un exemple, la filière menuiserie n'a pas un seul inspecteur à travers toute la République. La filière mine n'a pas un seul inspecteur. La filière géologie n'a pas un seul inspecteur. Et nous pouvons citer autant de filières. L'aviation civile.
La réunion annuelle a été placée sous le thème de la résilience en inspection scolaire efficiente, inclusive et citoyenne pour la transformation qualitative de l'école. Comment comprenez-vous cette thématique?
La résilience, s'il faut que nous puissions commencer par ça, vous avez vu dans quelles conditions nous avons même eu à faire passer les épreuves certificatives. Les inspecteurs qui ont travaillé dans des conditions très difficiles pour sauver l'image de l'État congolais et pour prouver que la RDC est une et indivisible, ils sont allés partout. Ils ont serré leur ceinture, ils ont bravé la menace, la peur et ils ont atteint les résultats. Et pour nous, l'inspection doit être inclusive, c'est-à-dire ne pas créer des divisions, ne pas créer un favoritisme envers tous les acteurs du système éducatif. L'inspecteur est appelé à faire en sorte qu'un enseignant qui présente un handicap, que ce soit l'handicap physique, l'inspecteur a l'obligation de l'accompagner pour qu'il réussisse sa mission ou, si c'est un élève, qu'il réussisse son cursus scolaire. À partir de tout ceci, les insuffisances constatées auprès des enseignants seront relevées, remontées à une étape que nous appelons l'étape d'accompagnement. Il y aura des modules d'encadrement de ces gens. Et là, nous parlons de ce qu'on appelle le renforcement des capacités.
Quelles sont vos perspectives d'avenir?
C'est de faire en sorte que toutes les écoles soient visitées par les inspecteurs. Et donc, pas une école sans inspection scolaire. C'est faire en sorte que l'inspecteur devienne un bon technicien en utilisant l'ordinateur. Bref, que l'informatique entre et contribue dans l'amélioration des apprentissages à travers, bien sûr, le travail de l'inspecteur.
Monsieur Hubert Kimbonza, nous vous disons merci.
Notre invité est interrogé par Blaise Ndongala Mayanda. Il est 18h20 ici à Kinshasa Gombe. Ainsi prend fin ce journal, mis en onde par Billy Landry Bitou, la coordination assurée par Richard Junior Kamonga et la supervision éditoriale de Pauli Mouzalia. Merci pour votre confiance.